Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas de temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
En compagnie de Jérôme Rotten, Willy Sagnol et Lionel Charbonnier. Chose promis, chose due. Homme promis, homme dû. Nos drôles de dames sont là. Bonsoir Fred Hermel. Ah bah non, il est pas là Fred.
Il est pas là.
Ah si, il est là. Ciao Fredo.
J'aime beaucoup cette réflexion de Thierry Henry sur le temps.
Ouais, c'est beau hein.
Non mais
ouais.
Sérieux.
Non, c'est beau ouais.
Ah, si tu l'as compris, vas-y explique-la nous alors.
Ah bah oui, mais s'il faut expliquer.
Non, on n'a pas le temps, vas-y passe.
Excuse-moi,
surtout
en ce moment, mais si.
Polo Breitner est avec nous également, bonsoir Polo.
Bonsoir mon cher Nico.
T'as compris toi Polo.
Le temps passe et on a perdu Michel et j'étais au Stade de France en 1981 pour le fameux match Pays-Bas-Hollande. J'avais 10 ans, c'était mon premier match au parc, je m'en suis pas remis. Toute sa famille, toutes mes condoléances et tout. C'est un monde qui s'écroule pour moi, je m'excuse, j'ai pris un quart de siècle d'un coup là. Voilà, mais je vous aime tout comme quand même, les gars. J'ai un coup de mou, c'est tout.
Ouais. Mais c'est vrai que c'était un monsieur, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il venait souvent en Espagne.
Ça rejoint ce que disait Thierry Henry d'ailleurs, hein, quelque part. Hein. Le temps passe, oui, c'est vrai.
Bien sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et c'est une époque pour nous, hein. Enfin, pour les gens qui, notamment, qui ont vécu 82 et 84, quoi. Donc, qui étaient enfants, comme c'était mon cas. Mais c'est vrai que, un petit hommage, bien entendu, à monsieur Michel Hidalgo, que j'avais invité pour une conférence à Madrid, dans le cadre de l'amitié franco-espagnole. Et on avait passé deux journées absolument exceptionnelles. Un type d'une humilité,
ouais,
mais
c'est un grand monsieur, ouais.
Un très bon mec. C'est-à-dire que, voilà, il te racontait des histoires fabuleuses, quoi. Donc, ça, c'est clair.
Simone Rovera. Ciao, Simone.
Ciao, buonasera.
Comment va Simone?
Ciao Simone.
Merci, ciao.
Ça va Simone?
Tout va bien, merci.
Et il en manque un. Et alors il est un peu en retard parce que Koh-Lanta vient de se terminer. Bonsoir Julien Laurence. Ah, il n'est pas là. Non, attends, il va arriver.
Ben oui,
il
est pas parce encore que là. Le temps en Angleterre n'est pas pareil.
Ouais.
Pas pareil. Tu sais, crois, c'est une heure de moins.
Je vous jure, quand il sera là, vous le taillerez, parce que je vous jure que c'est vrai. Monsieur était devant Koh-Lanta. Voilà, il était comme un ouf. Il voulait surtout pas rater Koh-Lanta ce soir.
Ah, donc, j'aime bien, moi aussi, hein, juste avant.
Non, très bien, ok. Visiblement, c'est pendant alors, toi, Lionel. Parce que c'est pendant l'émission.
Ouais,
c'est
pendant. J'attendais de voir qui est-ce qu'ils allaient
éliminer tout à l'heure. Non,
ne dites rien. Ne dites rien. Je veux le regarder en replay.
Non, il y avait la réunification, il y avait tout ça.
Je sais, arrête.
Non, mais franchement, les jaunes, ils ont abusé. Les jaunes ont abusé.
Vous êtes à fond dans ça. Bon, mon Fredo, on va commencer par toi. Alors, en cette période.
Ils n'ont pas le droit de le virer quand même.
En cette période d'inactivité. Le salaud est en train de spoiler. Alors, il y a plusieurs clubs espagnols qui annoncent des coupes dans les salaires de leurs joueurs. L'Atlético de Madrid, par exemple. C'est aussi le cas du Barça. Alors, qui a annoncé par communiqué aujourd'hui, a pris la décision de réduire le salaire de ses joueurs. Et alors, beaucoup de tensions du côté de Barcelone. Je regardais la une de sport aujourd'hui. Tension, voilà, je n'ai pas besoin de traduire, je pense.
C'est facile à comprendre.
Voilà.
La une de sport qui annonçait ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire que le conseil d'administration du FC Barcelone allait annoncer des mesures de chômage partiel. Et en fait, c'est tous les employés du club, c'est-à-dire du gardien à l'entrée du stade jusqu'à la star Messi à 100 millions bruts par an. Ça étonne personne que le Barça ait été le premier club à faire ça, parce que le Barça, on le sait, dans une situation financière assez catastrophique. Et donc, cette équipe du FC Barcelone a vu des moments troubles. Déjà parce que les basketteurs se plaignaient en disant « Mais on a l'impression que les footballeurs sont mieux traités que nous ». Ça a été très très chaud. Et donc, Mirotić, l'un des joueurs nommés par les autres voilà, comme porte-parole des basketteurs, parce qu'on sait que le Barça est un club qui a du basket, qui a du ring hockey, qui a plein de voilà, qui a du hand, c'est un club multisport. Et bon, Mirotić est allé voir le président. Finalement, ils ont accepté que leur salaire en gros soit baissé de 70% le temps où ils ne travaillent pas, le temps où ils ne jouent pas. Et dès que reprendra la Liga, ils reviendront à leur salaire.
Mais on a l'impression que c'est tendu là ces derniers mois, ouais. Du côté de Barcelone, hein, quand même.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que toute décision du président est prétexte à une crise avec les joueurs. C'est-à-dire qu'il le déteste, il ne s'entend pas, c'est un président qui n'a pas d'autorité, et il semblerait que certains joueurs de football refusaient cette baisse de salaire, quoi. Donc, alors après, on va expliquer une chose aussi, c'est que dans les grands clubs comme ça, les joueurs sont pas payés tous les mois. Ils sont en général payés deux fois par an, le 1er janvier, le 1er juillet. Mais dans ce qui sera versé au 1er juillet, cette période de confinement, cette période où il n'y a pas de travail effectif et où le club ne gagne pas d'argent, en tout cas n'a pas de des pertes même, puisque il n'y a pas de rentrée d'argent. Voilà, ça sera déduit du salaire des joueurs.
Ça, c'est une spécificité espagnole, Fredo, le fait de payer deux fois dans l'année.
Oui, bah après, ça dépend des clubs, parce que dans les petits clubs, les salaires sont pas si élevés, donc ils sont payés tous les mois. Mais je sais que dans les grands clubs, où les salaires sont très grands, après, tu peux avoir une avance, mais en général, c'est payé deux fois par an, quoi. Mais bon, dans le fait, ça restera une somme qui sera amputée de ces jours, parce qu'en plus, on sait très bien qu'ici en Espagne, le confinement va durer très longtemps. Voilà, donc d'un côté, il y a une certaine mauvaise foi des joueurs, il y a aussi surtout un prétexte pour attaquer le président, et puis il y a une chose qui a fait beaucoup de mal en Espagne. C'est-à-dire que la presse catalane a expliqué que le Barça, par ces mesures-là aussi, voulait surtout éviter de payer des charges sociales à la sécurité sociale. Et quand on sait la situation sanitaire dans laquelle se trouve l'Espagne, vraiment, ça a été très mal vécu dans le reste du pays.
Ouais. Tiens, en Allemagne, Polo, il y a une belle initiative de la part des quatre clubs allemands engagés en Champions League à l'encontre des plus petits, là, en revanche. Il y a un vrai geste de solidarité de la part des gros clubs allemands.
Oui, alors bon, ça paraît un peu ridicule, cette somme de 20 millions d'euros, hein, qui est la somme en fait de ce que devaient percevoir ces quatre clubs, plus une partie qu'ils ont mis de leur propre poche. Donc c'est Leverkusen, c'est Leipzig, Dortmund et le Bayern. C'est intéressant parce que, rappelons-nous, il y a quelques semaines, le directeur général Watzke de Dortmund disait qu'en gros, il n'était pas là pour aider les plus faibles. Et en fait, ils ont tourné Kazakh, et y compris Rummenigge, qui avait déclaré qu'à la fin, tout ce qui compte, c'est l'argent. Donc tout ça fait que les clubs en fait sont beaucoup plus solidaires aujourd'hui, et c'est très intéressant parce qu'au-delà de la somme qui, disons-le très clairement, ne sauvera pas certains clubs notamment de seconde division, parce qu'en fait ces 20 millions d'euros vont être donnés à la seconde division, sauf cas particulier. Par contre, on ne sait pas comment ça va être réparti, hein, c'est ce qu'on va nous expliquer ça dans quelques jours. Ce qui me semble important, et c'est typiquement allemand et ce pays qui est souvent très très conservateur, c'est que lorsque l'on a une crise comme ça, et qui ne touche pas que le football évidemment, on sent que l'Allemagne dans son entièreté se recroqueville sur ses valeurs fondamentales, et les valeurs fondamentales, c'est le football et c'est la Bundesliga. C'est-à-dire qu'au-delà de ce geste que je trouve évidemment très intéressant au niveau de la solidarité, c'est de comprendre que beaucoup de pontes du football allemand, dont Uli Hoeneß, hein, qui est toujours très présent, c'est de se rendre compte que finalement les championnats, enfin les compétitions européennes, c'est pas le plus important, que finalement tout ce qu'on nous parle de cette globalisation, c'est pas le plus important, et ce qui est important, notre Schwarzbrot, notre pain quotidien, c'est en fait le championnat national. Et je trouve qu'il y a des débats très intéressants en expliquant que de toute façon cette crise sanitaire va faire évoluer le football. Alors évidemment, ce sont des paroles aujourd'hui, on verra ce que ça va donner, mais on parle de plus en plus d'un salary cap, on parle de plus en plus de faire évoluer cette fameuse règle du 50 plus 1. Pardon ?
Je dis, vous allez y venir à mon salary cap.
Ah mais bien sûr. Tu sais, Polo, en Espagne, la réflexion qui est faite, c'est comme en Allemagne, qu'on peut plus continuer comme ça.
Et qu'à exactement, moment, c'est-à-dire voilà. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire que les transferts à 100 millions, c'est fini, les salaires mirobolants, c'est fini. Mmh. Oui, alors évidemment, pour l'instant, ce sont des paroles, on va voir comment ça va se mettre en place.
Pour être très précis, a dit, il n'y aura pas de transfert à 100 millions d'euros dans les 2-3 prochaines années, parce que effet coronavirus oblige aussi. Hein.
Oui, alors ça, c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Bundesliga, si tu veux, je ne vais pas vous parler de la seconde et de la troisième division. Il va en gros manquer entre 750 millions et 1 milliard d'euros d'ici la fin de l'année, en supposant évidemment que tout reprenne l'année prochaine. Ce qui est loin d'être le cas, évidemment. En fait, on va revenir à un chiffre d'affaires de 2017. Donc, ce n'est pas si catastrophique que ça. L'Allemagne gagnait déjà de l'argent. La Bundesliga est très, globalement très saine financièrement. Donc, c'est juste un recul. Donc, évidemment, Uli Hoeneß, lorsqu'il dit que c'est fini les transferts à 100 millions, c'est-à-dire qu'en fait, il se projette en disant que tant qu'on n'a pas récupéré ce chiffre d'affaires qu'on faisait actuellement, et donc en fait pour la première fois en 2019 la Bundesliga a dépassé les 4 milliards d'euros, on va se calmer un petit peu sur les transferts. Mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de clubs allemands et beaucoup de patrons de clubs allemands ou de directeurs généraux qui disent on peut pas continuer un football de cette façon, on peut pas continuer de financiariser ces montants-là. Il y a des clubs, pour rester compétitifs, ça devient très très difficile, et évidemment il y a des phénomènes de concentration, mais ça vous savez ça mieux que moi, avec le PSG, etc., d'autres clubs où le Bayern doit rester rester compétitif avec le Real, le Barça et tout ça, c'est très compliqué. Mais globalement, ce que je trouve vraiment intéressant à analyser, c'est qu'encore une fois, en période de crise et en grosse période de crise, l'Allemagne a tendance à se recroqueviller sur ses valeurs. Et ses valeurs, je suis désolé, ouais, c'est le championnat national et la Bundesliga.
Tiens, Simone, comment ça se passe justement la question des salaires en Italie ?
Bah, écoute, aujourd'hui, il y a, on peut dire une guerre ouverte à mon avis entre les clubs et l'association italienne des footballeurs, qui depuis plusieurs jours fait comprendre par les mots de son président Damiano Tommasi qui c'est pas en priorité aujourd'hui penser au salaire, que quand il sera les moments, il faudra y réfléchir, que pour l'instant on pense beaucoup à la mensualité de mars, mais comme il n'y a pas encore une date de reprise, une idée de reprise, c'est un peu tôt pour en parler. La vérité c'est que moi je trouve que si ailleurs il y a eu des gestes importants en privé des joueurs, les clubs ont fait des grandes choses, du soutien aux hôpitaux, ils ont recueilli plein de fonds, donc c'est pas sur ce qu'est en train de vivre l'Italie, mais moi je pense que il faudrait faire au moins une ouverture totale de la part de footballeurs italiens, parce qu'on sait très bien que en Italie, mais partout en Europe, on risque d'avoir généralement un impact quoi des 50-60% des salaires sur les bilans d'un club. Donc c'est normal que pour un club qui aujourd'hui n'a pas de recettes de tout ce que c'est à niveau de stade, tout ce que peut être aussi tout le ce qui passe à côté du stade, même les maillots, c'est pas aujourd'hui un moment où on vend des maillots de football. L'impact que peut avoir un salaire payé régulièrement quand tu n'as pas d'entrée, c'est très très lourd pour le foot, j'ai dit en Italie, mais ça va être partout en Europe. Donc pour moi, c'est normal que les joueurs de football doivent être les premiers à annoncer d'être disponibles. On sait, un cas un peu exceptionnel en Italie, il y a eu une réunion hier, si je ne me trompe pas, c'est sorti sur la presse aujourd'hui, du capitaine de la Juve, Giorgio Chiellini, avec les dirigeants pour présenter un plan de... gestion des salaires avec différentes options, pas payer les mois de mars et les payer plus tard, éliminer un mois sur quatre sur les prochains mois. Donc il y a différentes options que le club Juve est en train d'étudier avec ses joueurs, mais il a fallu qu'on peut dire la médiation du capitaine Chiellini, qui quand même il a une bac en économie, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un quand même qui peut comprendre le discours aussi du club, aussi le faire passer au centre de vestiaire. Mais pour moi, en Italie, il n'y a pas encore ce mouvement global d'un parti de footballeurs qui pourrait aider beaucoup.
Eh les gars.
Les foot italiennes, hein, en général, pas seulement.
Ça y est, il est là.
C'est fini.
Il est arrivé, Julien Laurent. Ça y est, c'est fini, Koh-Lanta, Julien.
J'ai eu du mal à me remettre de la fin de Koh-Lanta là. Donc,
ah, ne dis rien, parce que Willy,
je vous dis rien.
Ah oui, les ambassadeurs, ils ont été forts. Dis-le quand même. Ils ont été
sauf
forts.
Si c'est alors celui qui a été viré, j'espère que c'est celui qui était celui qui dirigeait un peu l'équipe des jeunes, qui faisait que virer tout le monde alors que lui il en branle pas une sur le camp. Là. Ouais. J'espère que c'est lui qui est parti. Hein.
Des rouges. Oui, je sais de qui tu veux parler. Je dis rien, mais on a kiffé.
Alors Julien, avant d'avoir vos fameux derbies, dans chacun de vos pays, juste Julien, une petite info qui nous vient d'Angleterre, qui est pas une petite, qui est une grosse info. Il y a un gros buzz, c'est la grosse info du jour d'ailleurs. Alors les présidents de Première Ligue voudraient, c'est pour certains du moins, annuler la saison en cours.
Effectivement, c'est un sujet dont on avait déjà parlé il y a quelques semaines au moment de l'interruption de la Première Ligue. Rappelez-vous, West Ham d'ailleurs avait officiellement par le biais de sa vice-présidente Karen Brady, en tout cas de son PDG Karen Brady, avait dit mais nous on veut pas que la saison se termine, on veut qu'elle soit annulée, qu'elle s'arrête maintenant, qu'elle soit annulée, qu'on reparte exactement de la même façon la saison prochaine. Bien sûr, ça l'arrangeait elle puisque West Ham se bat contre la relégation. Elle avait vite fait marche arrière dans les jours qui suivaient. Ben oui, en disant c'était peut-être pas une très bonne idée d'avoir dit ça, etc., etc. Mais toujours est-il que aujourd'hui là, ou en tout cas cette semaine, c'est un petit peu revenu aux oreilles de tout le monde. Certains présidents de clubs, certains dirigeants qui souhaiteraient effectivement que cette saison, parce que encore une fois, ça arrange eux et leur club, soit complètement annulée. On a vu aussi Rio Ferdinand il y a deux jours, lui aussi dire moi je pense que la saison ne devrait pas se terminer, elle devrait s'arrêter aujourd'hui, elle devrait être annulée. C'est dommage pour Liverpool, certes, parce qu'ils ont 25 points d'avance et ils méritent d'être champions, mais on peut, dans les conditions actuelles, on ne peut pas terminer la saison. Un, c'est trop risqué de reprendre trop rapidement pour pouvoir la terminer, et puis deux, ça foutrait le bordel, excusez-moi l'expression, mais pour la saison prochaine et peut-être même celle d'après, etc., etc. Donc voilà, donc de plus en plus de voix s'élèvent. Alors certaines de manière assez anonyme, puisqu'on ne sait toujours pas exactement quels clubs sont pour la terminer la saison actuelle et d'autres pour ne pas la terminer. Mais c'est vrai que de plus en plus on a ça lors des réunions, notamment encore ce matin il y a une réunion entre la Première Ligue, la Fédération Anglaise et le syndicat des joueurs, où effectivement on a encore parlé un petit peu de ça. Donc ça commence un petit peu à faire son trou. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura forcément un moment des clubs qui voudront qu'elle se termine et d'autres pour qui, dans leur intérêt, il faudrait que cette saison ne se termine pas. Donc quoi qu'il arrive, il y aura forcément un clash à un moment qui va se faire, soit publiquement, soit de manière plutôt privée dans leurs réunions.
Ça, c'est dingue. Attention, je peux simplement par rapport à ça, parce qu'en l'Espagne.
Mais c'est dans tous les pays pareil, j'imagine.
Ouais, hein, c'est dans toute la section. Même en Italie, c'est la même chose.
Non, mais ici, je pense que. Enfin, et Tebas, qui quand même. Qui explique bien les choses, c'est-à-dire que tous les clubs ont intérêt financièrement à ce que ça se termine.
C'est ce qu'a dit Rorès, voilà. On en a parlé tout à l'heure avec un économiste du sport.
Ouais, non, mais je veux dire, mais Tebas, c'est celui qui l'explique le mieux.
Non, mais. Fredo, t'as raison, sauf que si ça se termine et que ton club y descend en première ligue, tu t'assois sur 120 millions d'euros.
Ouais, bien sûr,
si la saison elle se termine pas, bah oui, si la saison se termine pas, certes, tu perdras sur cette saison, on va dire 10 millions d'euros, 20 millions d'euros, 50 millions d'euros. Mais comme tu continueras en première ligue la saison prochaine et tu seras pas relégué, tu vas récupérer tes 120 millions d'euros
de droits télé de première ligue. Mais le problème, c'est que il faut que les présidents de club ne regardent pas que leur petit intérêt tout de suite. C'est l'avenir du propre championnat qui est en jeu. Donc leur avenir à eux.
Bien sûr, mais
pour, tu vois ce que je veux dire. Donc
mais pour certains, c'est Koh-Lanta. Non, mais pour certains, c'est Koh-Lanta cette histoire. Pour certains, ils vont dire on est les rouges, on est les jaunes. Pour nous, si ça continue, on est vainqueur et les autres, on s'en fout.
Il n'y a pas la possibilité, ce qu'on évoque de plus en plus en Allemagne, en fait, évidemment, de geler le classement tel qu'on l'a maintenant, mais de ne faire aucune descente. Et tout simplement de rajouter deux équipes, c'est-à-dire que le passé de
l'Italie, comment tu vas caler déjà tous les matchs avec le retard qu'il va y avoir, c'est-à-dire en Espagne, je disais ça là, Marca disait ça, ils songent à jouer durant l'hiver, faire un Boxing Day, jouer également l'hiver pendant la fameuse coupure traditionnelle pour rattraper le temps perdu. Imagine si tu rajoutes des équipes,
jouer plus de matchs, c'est une histoire de gros sous.
Non, mais c'est pas une histoire de gros sous, c'est une histoire de calendrier aussi, Polo. C'est une histoire de calendrier.
Mais écoutez, on nous rajoute des compétitions systématiquement.
Mais là, on en enlève, justement. Regarde,
c'est des problèmes de gros sous en ce moment.
Non, mais si tu commences tes compètes avec 2-3 mois de retard, caler encore plus de matchs, ça va être encore plus compliqué.
Bah, en tout cas, l'Allemagne, il y aura pas qu'il y a quand même que 18 clubs. Ouais, donc, pas 20, c'est pas non plus.
Non, mais de toute façon, Nico, Polo, on se rend compte d'une chose, que, encore une fois, le pays où c'est le moins le bordel, encore une fois, c'est l'Allemagne.
Bah oui,
non mais c'est quand même. Eux, ils ont un mot qui est important. C'est un mot qui est dans l'hymne national. Qu'ils répètent souvent dans l'hymne national, c'est Einigkeit. Einigkeit, c'est l'unité. Et c'est un peuple pour qui le mot unité a une valeur extrêmement importante. Là, on parle actuellement des problématiques. Il y a 4 clubs qui vont filer, 20 ou 20 et quelques millions.
Ouais, 20 millions.
Voilà. Il faut pas oublier que dans un passé très récent, il y a des grands clubs qui ont permis de sauver d'autres clubs. On pense au Bayern qui a filé un gros chèque à Dortmund en 2004 ou 2005 pour éviter la banqueroute. On pense aussi au Bayern avec Sampaoli. Ils l'ont quand même fait souvent. Et c'est des choses qu'on revoit souvent. Et c'est aujourd'hui dans le modèle économique, dans le fonctionnement, tout le monde le dit, c'est aujourd'hui un modèle, la façon dont est faite cette Bundesliga.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que Louis dit, mais il y a un problème en fait. C'est-à-dire, vous savez qu'en 2017, il y a eu la renégociation des droits de télé, et en fait, alors l'Allemagne avait une spécificité par rapport aux autres pays européens, c'est ce qu'on appelle 4/4, c'est-à-dire que les recettes étaient diversifiées. On avait en gros 25% qui venaient du ticketing, 25% qui venaient des sponsors, 25% qui venaient des droits de télé, et puis le reste c'était transfert plus autres, merchandising, etc. C'était une spécificité nationale par rapport aux autres pays européens. Sauf que les droits de télé nationaux ont explosé, évidemment ils gagnent de plus en plus d'argent aussi sur les droits de télé internationaux, et en fait ils se retrouvent dans la même problématique que les autres pays européens, c'est-à-dire que cette spécificité est en train de disparaître, et aujourd'hui on se rend compte par exemple de l'impact très fort de la renégociation des droits télé, des droits télé internationaux qui augmentent année après année, et donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que 18 passer à 20 c'est bien, la solidarité elle est là, et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure qui se recroquevillait sur la valeur fondamentale qui s'appelle la Bundesliga. Je suis désolé de me respecter, mais depuis 45 l'Allemagne s'est construite sur 3 valeurs, l'industrie, le Deutschmark, les 2 premiers ont quasiment disparu, et il reste le football allemand. justement, et la Bundesliga. Et ça, c'est des choses qu'on ne leur enlèvera pas. Et donc, encore une fois, ils se fichent, ils sont en train, dans les patrons des clubs, sont en train de se dire, l'Europa League, c'est pas important, la Ligue des Champions, c'est pas important. Nous, notre pain quotidien, c'est la Bundesliga, il faut tout faire pour la
phrase,
sauver.
Polo, tu vois, il y a une phrase que parce que Eunès, alors c'est un grand personnage en Allemagne, France parfois on a une mauvaise vision du personnage, mais en termes de management, je pense que c'est ce qui s'est fait de mieux depuis 30 ans.
J'ai toujours dit que c'était le meilleur manager d'Europe déjà parce qu'il avait pas l'argent. Hein, rappelle-toi lorsqu'il est arrivé au Bayern, il avait juste une dactylo qui bossait avec lui, il a tout fait tout seul. Donc il y a pas de grosse fortune,
Par exemple, le Bayern, c'est un club, je crois, depuis le transfert de Rummenigge au Servette de Genève, qui devait être, je sais pas, 82, 83, c'est un club qui chaque année gagne de l'argent. Exactement. Donc ça fait 37 ans que c'est un club qui gagne de l'argent. Et un jour, il m'a dit une phrase, il m'a dit, un grand manager ou un grand président, c'est pas celui qui va défendre son club à tout bout de champ, c'est celui qui va défendre sa discipline. C'est-à-dire celui qui va défendre son football national.
Mais c'est aussi sa célèbre phrase, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Et ça, il a fait des émules. C'est-à-dire, la plupart des managers en Allemagne sont comme ça.
Exactement. Quand on voit, par exemple, en France aujourd'hui, la cacophonie, le bordel que c'est avec on crée un truc, le lendemain, ça n'existe plus. Il y en a qui veulent décider, ils n'ont pas le pouvoir de décider. Enfin, tu te rends compte d'une chose, c'est qu'ils érigent souvent le modèle en France, ils érigent souvent le modèle allemand comme exemple, comme valeur d'exemple, pour pouvoir progresser, mais ils en ont pas les valeurs. Donc c'est très problématique de vouloir faire quelque chose, mais tu n'as pas les valeurs. Voilà.
Messieurs, dans quelques instants, on y arrive à vos fameux derbys méconnus. Vous allez nous présenter à chacun à votre tour un derby. Polo, Fred, Julien, Simonet. Toujours avec. T'es toujours là, Jérôme ?
Ouais, je suis là, j'écoute.
Ça va, tu kiffes ou pas ?
Ouais.
C'est pas trop compliqué.
Tu comprends ou pas ce qu'ils disent ?
J'allais te dire un gros mot, mais.
Oh non, du coup.
Si, t'as le droit, Jérôme, t'as le droit, là, il t'attaque, t'as le droit.
Scheiße.
Voilà. À tout de suite.
T'es pire.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Willy Sagnol, Jérôme Rotten et Lionel Charbonnier, nos drôles de dames qui sont là également, Simonet Rovera, Julien Laurence, Fred Hermel, Polo Breitner. Et puis comme promis, c'était l'une de vos idées, l'une de vos suggestions sur le hashtag Mon After. Vous le savez, pendant cette période de confinement, eh bien, c'est votre after plus que jamais. Vous choisissez des thèmes qu'on débat, qu'on expose, qu'on présente dans cet after. Et ce soir, eh bien, nos drôles de dames vont nous présenter des derbys méconnus dans leur pays. Simonet, on va commencer par toi. Tiens, par quel derby veux-tu commencer ? De quel derby tu veux nous parler ?
Alors, il y a plusieurs derbys de haut niveau, on peut dire, pour la rivalité énorme entre les supporters. Je vous dis seulement deux, trois noms parce que au nord-au-sud, il y a celui très, très chaud entre Reggiana et Parme, Bari Lecce dans les Pouilles, Livorno-Pisa, c'est historique en Toscane, Perugia-Ternana, nell'Umbria, Chievo-Verona, bien sûr, en Serie A, c'est le plus connu. Dans les années 80, c'était très, très chaud, Avellino-Napoli, Maradona encore, il y a quelques années, dans la télé argentine, parlait d'une des matchs les plus chauds qu'il a jamais joué. Pour aller à Palermo-Catane, malheureusement aussi avec ces histoires tragiques de 2007. Les derbies dont je vais vous parler, c'est quand même Atalanta-Brescia. Atalanta-Brescia qui sont ces deux villes de la Lombardie, Bergamo et Brescia. Aujourd'hui, malheureusement, sont très connus pour tout ce qui est en train de passer la Lombardie et de vivre. Mais la chose qu'il faut savoir de cette rivalité, c'est que les deux communes, quand même, sont deux villes. Il y a 52 kilomètres de distance entre les deux, mais qui se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire, c'est vraiment la province ouvrière. On dit toujours à Milan que après la guerre, dans les années après la guerre, c'est Bergame et Brescia, les ouvriers de Bergame et Brescia qui ont bâti tous les gros bâtiments, les nouveaux immeubles de l'après-guerre de Milan. Donc c'est vraiment une des régions très ouvrières, mais qui ont une rivalité énorme qui part du Moyen-Âge. Parce que déjà à l'époque, les villes de Bergame et de Brescia étaient en opposition pour une histoire des terrains vendus, d'un roi, d'un seigneur de l'époque de Brescia à Bergame. Ça a commencé comme ça en Moyen-Âge. Et de Kylian la rivalité dans les footballs. Là, on part de deux années 20, si je ne me trompe pas. C'était toujours une rivalité, oui, 20-21, une rivalité énorme. Il y a un match qui raconte au mieux pour moi cette rivalité, et c'était les matchs du 30 septembre 2001. Brescia-Atalanta, match qui se termine avec un 3 partout, avec Brescia qui ouvre les scores, 1-0, avec un certain buteur que vous découvrez. 3 buts de Brescia derrière, et après, dans les dernières minutes, 2-3 et 3 partout, avec égalisation à la 92e minute, avec une course folle de celui qui était l'entraîneur à l'époque de Brescia, Carlo Mazzone, qui après s'être qui avait été insulté, on peut dire, par 90 minutes par les supporters de l'Atalanta, il a pris cet homme il y a 70 ans qui s'est mis à courir 50 mètres avec un sprint incroyable pour aller devant les virages des supporters de l'Atalanta et répondre aux insultes avec les mêmes mots qu'il avait reçus. L'homme qui a marqué 3 buts dans ces derbies avec le numéro 10 pour Brescia, c'est un certain Roberto Baggio, bien sûr, qui a laissé un peu l'empreinte sur celui qui est un peu les derbies plus historiques de ces dernières années. Mais rivalité, malheureusement, même entre supporters, bien sûr, donc des épisodes aussi, des grosses tensions où la police a dû intervenir. On se souvient d'une derby de 1993 où les supporters de Brescia avaient pris une banderole, volé une banderole à celle de Bergame, de l'Atalanta. Elles vont montrer à la fin du match, donc envahissement du terrain, les forces de l'ordre qui ont dû intervenir. Vraiment, un derby très très chaud. Deux images animales, on peut dire, entre les deux. Les supporters de Brescia appellent ceux de l'Atalanta les lapins, et ceux de l'Atalanta appellent les de Brescia les cochons. Oui, il y a dans les années 30, à la fin du match, les supporters de Brescia avaient lâché sur les terrains, on parle de dizaines, voire des centaines de lapins pour mépriser, on peut dire, les joueurs, les supporters adversaires de l'Atalanta. Aujourd'hui, on sait très bien quelle est l'équipe la plus forte, pas seulement parce qu'elle a gagné les derbies cette année 3-0. L'Atalanta, on sait que c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Brescia est dernière en Serie A. Mais imaginez, sur 63 matchs joués, aujourd'hui, les scores, c'est 22 victoires Brescia, 18 Atalanta et 23 matchs nuls. Donc, historiquement, dans ces derbies très très chauds du nord d'Italie, c'est Brescia qui est devant.
Ok, Simone. Bon, moi je la connaissais pas cette rivalité entre l'Atalanta et Brescia perso.
Il y a une magnifique reportage fait par les collègues des Copa 90 qui ont pu trouver en anglais une heure que parle de la rivalité de cette ville et surtout de comment ces deux clubs et comment ces deux villes sont très similaires mais sont très très loin dans les tifos et bien sûr dans la vision de certaines choses.
Julien Laurence, présente-nous toi un derby qu'on ne connaît pas forcément. Voilà un derby moins médiatisé. Alors on connaît hein, le City United, Everton Liverpool, le fameux derby d'Angleterre. Même s'il paraît qu'en Angleterre on n'évoque pas trop ce terme-là. De quel derby tu veux nous parler ce soir?
Pas trop comme ça. Moi c'est vrai qu'on aurait pu. T'as raison. On en a discuté tout à l'heure avant l'émission, en la préparant, parler d'un gros derby, raconter quelques histoires, quelques anecdotes marrantes. Mais finalement on a choisi Brighton Crystal Palace parce que c'est un derby que les gens peut-être ne connaissent pas très bien. Les auditeurs connaissent pas très bien. Pourtant c'est un derby intéressant parce que déjà un, il y a des bonnes histoires. Ça fait toujours les derbies aussi. Et deux, parce que effectivement c'est pas très connu. Donc c'est deux villes, en tout cas deux clubs qui sont distants d'une soixantaine de kilomètres, un petit peu moins de 60 kilomètres. Brighton bien sûr c'est sur la côte. C'est une ville où tu vas à la plage, c'est plutôt sympa. Et puis Crystal Palace, c'est la banlieue sud de Londres, c'est Croydon, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est déjà deux environnements complètement différents, deux classes sociales aussi complètement différentes. Et surtout, il y a une route, la A23, donc c'est pas une autoroute, c'est plutôt une nationale, on dirait en France, qui relie Croydon à Brighton. Et effectivement, sur cette nationale-là, depuis les années 70 environ, on va dire, on retrouve une grosse rivalité, une de ces rivalités anglaises. anglaise dont on parle énormément, même si c'est deux clubs qui existent depuis longtemps. Je crois qu'ils se sont rencontrés 105 fois en tout, que ce soit en Coupe d'Angleterre, en Coupe de la Ligue, en championnat, etc. Ils étaient au départ dans la Southern League et puis ensuite ils sont passés en troisième division d'abord ensemble. C'est là où ils ont beaucoup joué, où la rivalité s'est créée aussi. Et puis après, pendant longtemps, pendant une dizaine d'années, ils se sont plus jamais rencontrés et puis se sont retrouvés dans les années 70. Et c'est là vraiment où la rivalité est montée d'un cran, où ils ont commencé à se détester de plus en plus. Premier match, donc après ces 11 années sans se rencontrer, premier match en 74, ça finit en grosse bagarre dans les tribunes, sur le terrain. C'était un gros bordel, mais vraiment bordel absolu. La saison suivante, on recommence, grosse bagarre. Et là, c'était vraiment parti où les deux clubs déjà entre eux, grosse rivalité, grosse compétition entre les entraîneurs, entre les supporters aussi, notamment les hooligans à cette époque-là. Hein, n'oublions pas, malheureusement, les heures un peu noires du football anglais. Et puis surtout le gros match, celui dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore, notamment une histoire assez marrante à la fin, c'est les playoffs de deuxième division. Donc pour monter en première division, les demi-finales, les deux clubs se rencontrent en 2012-2013. Ça fait 0-0 sur la pelouse de Selhurst Park à Crystal Palace. Et lors du match retour à Brighton, où Brighton est plutôt favori, c'est dans leur nouveau stade en plus, leur tout beau stade, Crystal Palace va s'imposer là-bas 2-0. Mais l'histoire qui a fait la légende de ce derby, de ce match-là surtout, c'est que une fois que les joueurs de Crystal Palace, après avoir fait la fête dans le vestiaire, avoir chambré un peu tout le monde, quitte le vestiaire de l'équipe visiteuse, donc dans le nouveau stade de Brighton, on retrouve du caca partout. Mais du caca partout dans le vestiaire des visiteurs. Mais vraiment, Crystal Palace avait laissé de la merde partout. Mais vraiment partout. Sur les murs, par terre, sur la porte, sur les poignées. Incroyable. Sans qu'on sache pendant de longues années qui avait fait ça. Et ben, visiblement, c'est le chauffeur du bus de Crystal Palace. Arrête. Qui a eu donc cette mission, je te jure, qui a eu donc cette mission de laisser ses excréments partout en souvenir, en cadeau de souvenir à Brighton, qui s'est déjà bien dégoûté d'avoir été éliminé de la course à la montée en première ligue. Crystal Palace ensuite a remporté en plus la finale du playoff contre Watford cette année-là. Ils sont montés en première ligue. Et ils ont retrouvé Brighton 4 ans plus tard en première ligue, 5 ans plus tard en première ligue. Et là, première rencontre, vous imaginez bien comment ça se termine. En grosse bagarre, les supporters visiteurs, bien sûr, avaient foutu le bordel à Crystal Palace. Et voilà. Donc, on a eu pas mal de bagarres, un peu de caca et une grosse rivalité, surtout depuis les années 70.
Alors, Lionel, Willy, Jérôme, on est obligé de vous poser la question. Ouais. Est-ce que ce genre de pratique est courante?
Caca, tu es nul.
Non, alors tu sais ce qu'ils font nous par exemple chez les Rangers et au Celtic, c'est-à-dire
la couleur du PQ.
Un petit peu la couleur du PQ, c'est-à-dire quand t'es Rangers que tu vas jouer au Celtic, ils te mettent dans ton vestiaire un PQ bleu. Comme ça, les mecs, quand ils vont chier, ils osent pas se torcher avec la couleur du maillot.
C'est vrai, non, mais c'est une vraie histoire ce que tu racontes en plus. Hein. C'est pas des conneries.
Ah non, mais c'est la vérité. Et donc, chez les Rangers, quand le Celtic venait, alors je sais pas si ça se fait toujours, je pense.
Jérôme, t'as connu ça,
PQ vert.
Moi, j'ai connu ça après, parce que je suis passé après Lionel aux Rangers. Et oui,
et
oui
il y avait plus de PQ, ils étaient propres.
Ils sont cons.
Exactement.
Willy, t'as connu des histoires comme ça dans le vestiaire ou pas, là? Rivalité comme ça, on fait caca sur les murs, ou peut-être pas autant, mais...
Non, mais en fait, c'était pas dans un derby, mais c'était. En fait, et Lionel, excuse-moi de te le dire, c'était souvent à Auxerre.
En fait, ah, mais nous, on était loin, moi je peux t'en raconter sur Auxerre.
Il y avait une particularité.
T'as eu chaud dans le vestiaire?
Alors, pas dans le vestiaire. Dans le vestiaire, oui, mais ça, t'y restes pas longtemps. Mais parfois, tu sais, quand tu vas jouer à Auxerre, style au mois de mai, tu peux avoir déjà des températures estivales. Et ben, manque de peau, dans ta chambre, à l'hôtel, le chauffage est à fond et il est cassé et tu peux pas le descendre. Tu peux pas descendre la température.
À l'hôtel,
oui, ça commençait à l'hôtel déjà. Oui, oui.
À l'hôtel, je savais pas. On n'était pas au courant. Dans les vestiaires, on était au courant.
Tu le savais.
Dans les vestiaires, ouais, les vestiaires, c'était apparemment les tout le monde se plaignait les adversaires. Mais on avait, c'est au cerf et puis on n'a pas le plombier de service. Tout petit. Mais non, ce qu'on faisait aussi, c'est que souvent les ballons ils restaient la semaine parce que pendant longtemps on jouait avec nos propres ballons. C'était pas comme maintenant où t'as un ballon. Donc tu venais à Auxerre, tu jouais avec le ballon sport. Voilà, exactement. Ouais. Ah ouais, et donc, et les premiers, ils étaient avec des coutures. Et donc, on avait les ballons dans la piscine, là où on prenait le bain, dans la piscine, enfin, ou dans le jacuzzi. On avait une dizaine de ballons. On se demandait ce que foutaient ces ballons-là. Et en fin de compte, ils les mettaient dans la piscine pour qu'ils s'alourdissent au maximum.
Ouais, ils s'alourdissent et ils te le filaient pour l'échauffement.
C'était les ballons d'échauffement.
Ils te les filaient pour l'échauffement. Et voilà. Et en plus, ils les gonflaient pas beaucoup. Alors que le ballon de match était hyper gonflé chez nous.
Et c'est pour ça que voilà, Fabien Coll n'arrivait pas à dégager, en fait.
Je sais.
Salaud.
Mais alors c'était pas dans les derbies, tu vois, on s'éloigne un peu, mais voilà, c'était bon, c'est des petits trucs parce que nous aussi, hein, quand on, ça nous arrivait aussi à Bastia d'avoir le comment,
jamais,
le vestiaire hyper chaud.
Oh non,
jamais.
Bah non, Jérôme, t'as connu.
J'ai même vu Jérôme passer avec sa clé de 12 et essayer de récupérer.
C'est des légendes.
Non mais, non mais c'est des légendes.
C'est des légendes. Ça n'existe pas. Et alors.
Au Fradé. Et alors. On les reçoit bien les gens du continent.
Et alors, c'est vrai. C'est
pour recevoir. Voilà, et alors, au charbonnier.
Au charbon.
Tenant de poule. Tenant de
voilà. Qu'on embrasse, hein, Fred Antonetti, bien sûr. Dans quelques instants, Fred et Polo vont eux aussi nous exposer un derby méconnu, voilà, en Espagne et en Allemagne. On est toujours avec Lionel Charbonnier, Jérôme Rotten, Willy Sagnol. Et avec vous sur le hashtag RMC Live et au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Avec Willy Sagnol, Jérôme Bretagne, Lionel Charbonnier et nos drôles de dames qui ce soir, c'était l'une de vos suggestions sur le hashtag Mon After, eh bien, nous présentent des derbys méconnus dans leur pays. On a fait l'Italie, on a fait l'Angleterre. Tiens, place à l'Espagne, Fred, t'as décidé de nous parler de quel derby qu'on connaît peut-être moins en France?
Bah, j'hésite entre deux, un du Nord et un du Sud, mais celui du Nord dont j'aurais pu parler, c'est le derby des Asturies, qui est une région, la partie celte hein, de l'Espagne, entre Oviedo et Gijón, et le Sporting de Gijón. Mais quand même s'il est un peu plus connu, le derby de Séville, c'est quand même ce qu'il y a de plus génial. Franchement, parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter autour de cette rencontre. Il y en a beaucoup de matchs. Hein. Il y a eu beaucoup de matchs et c'est largement Séville. Parce que ici, on dit pas, on dit c'est El Sevilla ou El Betis. Voilà. Et on dit c'est les deux sont bien séparés de par leur nom, même si c'est dans la même ville. Séville a gagné 87 matchs, 43 matchs nuls et 53 pour le Betis, qui est quand même le club né plus tard, né 2 ans plus tard ou de 3 ans après le Sevilla et qui fait office un petit peu du club un peu plus petit par rapport à celui qui a quand même gagné beaucoup de coupes de l'UEFA par exemple, 5, etc. Donc on se retrouve avec un derby dans une région très particulière parce que l'Andalousie, c'est vraiment l'Espagne dans tout ce qu'elle peut avoir d'excessif, Séville en particulier. Alors moi, j'aime pas du tout, en général, présenter des clubs par rapport à la sociologie, à la classe sociale de ses supporters. Là, quand même, parce qu'en général, c'est pas réel. C'est souvent à inventer. Là, il y a vraiment quelque chose entre Séville, le club du centre-ville, le club de la bourgeoisie sévillane, qui est Séville, sûrement la ville la plus bourgeoise d'Espagne. Mais vraiment, c'est vraiment... c'est horrible. C'est vraiment la ville la plus classiste d'Espagne, celle où on vous fait remarquer très souvent que vous n'êtes pas d'ici. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Cristóbal Cervantes, qui est un grand animateur de radio. Il vient d'Almeria, en Andalousie. Il est à Séville depuis 40 ans. Il fait de la radio, de la télé là-bas depuis 40 ans. Ben, un jour, il m'a expliqué quand même. Il dit, tu sais, ici, on me fait encore comprendre que je suis pas d'ici. Donc voilà, Séville est une ville très classiste. Et donc... Vous avez Séville habillé de blanc et vous savez cette équipe qui regarde un petit peu par-dessus l'épaule, l'équipe qui a moins de supporters dans la ville de Séville, mais qui a plus de supporters sur l'ensemble de l'Andalousie, qui est le Bétis. Et ça se voit dans la personnalité des présidents, par exemple. Vous avez toujours le président d'un Bétis, il va être un peu plus... entre guillemets, hein, dans sa main, un peu plus voyou, un peu plus roller de mécanique.
Et d'ailleurs, historiquement, Séville, c'est le club des riches, on va dire, et Bétis, c'est plus la classe
paysanne.
C'est
plus populaire. Ouais. C'est ça. Voilà. C'est plus la périphérie et le reste de la ville, alors que Séville, c'est vraiment le club de la bourgeoisie, bourgeoisie du centre-ville. Alors, il y a eu des excès, mais incroyables. Il y a eu des débats. Bah, je sais pas, on se souviendra en France de Claude Bèze et de Bernard Tapie. Et ben, ici, on a eu, parmi les plus grands duels de présidents de l'histoire du foot espagnol, c'était avec l'Opéra, le président de Séville et del de pardon le président du Bétis et del Nido, le président du Sevilla. Il y a eu simplement, pour terminer, un moment de retrouvailles qui a été très puissant. Vous vous souvenez quand le pauvre Antonio Puerta, joueur de Séville, est mort en 2007 d'un problème cardiaque en jouant un match. En Espagne, une capi ardente, on appelle ça une chapelle ardente, avait été installée pour toute la nuit dans le stade de Séville. Et là, en pleine nuit, s'était présenté l'Opéra, donc le président ennemi de l'autre président dont je viens de vous parler, et tous les joueurs du Bétis qui avaient défilé devant le cercueil du joueur de Séville qui vient de mourir. Alors ça pourrait paraître normal, mais ça avait été un événement colossal en Espagne, vu la haine entre guillemets qu'il y avait entre ces deux clubs, qui ont su se retrouver dans des moments très particuliers. Et après, bien entendu, mais je pense que c'est pareil dans tous les derbies, pour un Sévillan, le match à pas perdre, c'est le match contre le Bétis, et pour un Bético, le match à pas perdre, c'est contre Sévilla.
Merci Fredo pour ces histoires. Merci. Sur le derby.
En fait, il a pas bossé, quoi.
Pourquoi tu dis ça?
Parce que il n'a pas compris le thème, Fred. En fait, c'était nous faire découvrir des derbies qu'on
ne après, il nous raconte des histoires qu'on ne connaît pas forcément autour du derby.
Voilà, c'est toi qui n'as pas compris, mon grand.
Non, c'est toi. Mais t'as pas cherché, mais c'est pas grave. Hein.
Je crois qu'il a pas aimé le truc de tout à l'heure, t'as compris, Jérôme. Bon. Je crois que tu l'as encore.
Bravo Julien, par contre.
Voilà, bravo. Ouais.
Bah oui, parce que c'est le petit caca, toi, ça te va.
Voilà. Mon Polo, quel derby tu nous as choisi en Allemagne? Derby qu'on connaît peut-être un peu moins, d'ailleurs.
C'est compliqué, parce que, par exemple, dans la ville d'Hambourg, vous avez un fabuleux St. Pauli Hambourg, lorsqu'il arrive. Vous avez le Nord Derby entre Hambourg et Brême, qui est fabuleux. Vous avez le fameux Zut Derby entre Stuttgart et le Bayern, que connaît très bien Willy. Vous avez, n'oublions pas que c'est un pays fédéral, donc vous avez quasiment des clubs de foot dans chaque région. Et moi, je voudrais vous parler de ce que je considère, en tout cas, comme le deuxième derby le plus important d'Allemagne. Mais le problème, c'est qu'à part Schalke Dortmund, on n'en parle pas grand-chose en France, notamment. C'est l'opposition entre Cologne et Mönchengladbach. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un Rhein-Derby, c'est-à-dire le derby du Rhin. C'est l'un des plus importants d'Allemagne. Paradoxalement, c'est l'un des plus chauds, c'est un des historiques. Même si, à la création de la Bundesliga, donc en 1963, et bien le Borussia Mönchengladbach ne faisait pas partie des 16 équipes qui ont été choisies pour commencer le championnat. Et comme par hasard, c'est Cologne qui avait remporté le premier championnat en 64. Pourquoi? Parce qu'il y avait un président qui s'appelle le président Kramer, qui était le président le plus avant-gardiste du football allemand, qui avait compris que le professionnalisme devait absolument arriver, etc. Et lui, il avait été champion amateur en 62, mais c'est déjà quasiment des professionnels, et en 64. Mais il va se passer quelque chose de très important dans les années, enfin, des fins des années 60, évidemment. Dans les années 70, il y a le fameux Borussia Mönchengladbach qui va débarquer, déferler sur la Bundesliga, déferler sur l'Europe. Malheureusement, il y aura un club qui s'appellera Liverpool en face. Je voudrais juste vous lire ce qu'écrivait l'année du football en 1976 sur le Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach, c'est le Vésuve, Hiroshima et tous les cataclysmes de la création réunis en football. Quand cette équipe-là tourne à plein régime, on est tenté d'accrocher ses chaussures au clou et d'aller planter ses choux. C'est la synthèse de tous les talents et de toutes les qualités qui exigent le football moderne. Son jeu est fait de flux et de reflux, sans temps mort, avec la plus belle harmonie dont on puisse rêver. Et ça, c'est les Français qui écrivent ça, donc c'est quand même pas mal du tout. Maintenant, ce derby, dès les années 70, il va être important parce qu'en 71, première anecdote, Mönchengladbach se déplace à Cologne, et j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, Cologne, 1 million d'habitants, ville opulente, la Domstadt, la ville cathédrale, tandis que Mönchengladbach, évidemment, c'est les pouilleux à côté, ils ont 250 000 habitants, c'est rien du tout, ils vont bosser dans la Ruhr, ce sont des ouvriers, et évidemment, Cologne, très puissant, etc. Nous, ils surnomment d'ailleurs les paysans, les ploucs, et donc, encore une fois, Fred parlait très bien de Séville, c'est un petit peu ça aussi, Cologne. Hein. Et donc, en 71, première anecdote, et ben Mönchengladbach, évidemment, cette nouvelle fabuleuse génération arrive pour jouer à Cologne, et hop, au parquet de l'hôtel, que se passe-t-il? Et ben on leur pique le bus. On leur pique le bus, les supporters adverses, et on leur pique dedans, évidemment, les maillots, les chaussures. Mönchengladbach doit se débrouiller pour avoir une tenue correcte pour la rencontre. Évidemment, ils perdent ce match. Et là, on est en 71, à la rigueur, c'est très, très, très rigolo. Le problème, et Julien l'a très bien expliqué, dès qu'on va passer les années 70-80, et ben on est dans l'hooliganisme, et en fait, ce derby va se détériorer aussi bien à l'intérieur des tribunes qu'en dehors, où évidemment la castagne est très très présente. Et donc on se demande aussi quand même si ce derby est bien né ou pas bien né. Mais symbole de cette rivalité, nous n'oublions pas, deux joueurs allemands fabuleux. L'un, il ressemble à Socrates, il a le buste droit, il a la tête levée, il s'appelle Wolfgang Overath, l'un des plus beaux, peut-être le plus beau pied gauche de l'histoire du football allemand. Et de l'autre
le
côté
Roten,
c'est la
allemand, quoi.
Voilà, le Roten, ouais, allemand. Voilà, et de l'autre côté, eh ben, la première pop star du football allemand, un certain Günther Netzer et son 47 de pied. C'est pas neutre non plus. Les deux joueurs, évidemment, sont deux numéro 10 d'exception, comme on a rarement vu. Ils arriveront jamais, évidemment, à s'entendre en équipe nationale pour jouer, alors que c'était des amis dans le privé. Et il se passe quelque chose de très intéressant. Nous sommes le 21 juin 1973, finale de Coupe d'Allemagne à Düsseldorf. Netzer est sur le banc, énorme surprise. Overath, pardon, évidemment du côté de Cologne. Et là, il ronge son frein. À ses côtés, il y a le mythique entraîneur Enes Westveller, qui est un ancien de Cologne, un ancien joueur et ancien entraîneur mythique de Cologne. Et les relations sont tendues entre les deux hommes. Netzer va-t-il se retirer finalement, parce que c'est son dernier match pour le club de Mönchengladbach avant de partir au Real Madrid. Et là, il ronge son frein. C'est la fin du match, c'est la fin, pardon, des 90 minutes. 1-1. Que se passe-t-il? On fait rentrer Netzer. Et là, Gunther Netzer, eh bien, il est flanqué de son numéro 12, évidemment. Il prend le ballon aux 50 mètres. Il déboule à l'approche du but de Cologne. 1-1-2 avec Rainer Bonhof. Superbe ouverture de l'ancien champion du monde, évidemment. Et Gunther fusille des 25 mètres le portier de Cologne pour l'emporter 2-1. C'est ce qu'on appelle un Jahrhunderttor, un but du siècle qui sacre, évidemment, Mönchengladbach. Et, évidemment, Netzer peut partir tranquille au Real Madrid. Et c'est très intéressant parce que c'est évidemment toute l'opposition des années 70 qu'il y a dans ce derby. Mais encore une fois, problème dans les tribunes, problème en dehors. Et dans les années 80, la violence va être de plus en plus présente. Évidemment, dans les années 90, ces deux clubs vont perdre un petit peu de leur superbe. Sauf les groupes d'ultra qui trouvent entre eux le moyen de piquer les banderoles des autres. Et évidemment, ça fait de la baston partout, à tel point qu'on est forcé d'arrêter des matchs parce que la police doit intervenir. Et évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, donc c'est l'un des derbys pour moi les plus importants d'Allemagne. C'est Cologne contre Mönchengladbach. Et puis, s'il faut, comprendre ces derbys et la violence qu'il y a autour aussi, c'est qu'en Allemagne, lorsque des matchs, on vend toujours de la bière, évidemment, mais à Mönchengladbach, Cologne ou Cologne-Mönchengladbach, la bière, elle est sans alcool. Voilà, messieurs.
Ah ouais ?
Ben oui.
Bravo.
Bravo, Polo.
Il a bien bossé ou pas ?
Ça, c'est du Jérôme. Ça, c'est du boulot.
Bravo.
Ça, c'est du boulot.
Ah oui, attends, j'avais rajouté aussi. Ça,
Bravo, Polo.
Et puis bon, Gunther quand même, quoi. C'est un Dodge Qualität, ouais. Il aime l'oseille, il aime les bagnoles et dans chaque short, il avait une fille différente. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Voilà.
Bah bravo, belle histoire. Voilà. Vous la connaissez, cette rivalité, les mecs, vous, entre Cologne et Gladbach ?
Ah non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Oui, qui allait intervenir, pardon, j'ai coupé.
Ouais, je voulais te dire, ça m'a fait venir. Alors, je sais pas, une idée comme ça, peut-être que parce que souvent on entend parler des supporters qui se piquent les banderoles, tout ça, on pourrait pas faire un after où il y a des supporters qui nous racontent parce que nous c'est quelque chose, je sais pas, Jérôme Willy, si moi je savais pas qu'ils se piquaient les banderoles, qu'ils se faisaient des trucs comme ça.
C'est de la rivalité, c'est de la provocation et après il la déploie pendant
le match. Qui viennent nous raconter un petit peu ce qu'ils ont subi ou ce qu'ils pourraient faire les trucs marrants.
Mais tu sais Lionel,
enfin moi ça m'intéresserait de savoir. Je sais pas si...
En Allemagne, de se piquer les banderoles entre supporters, il y a aussi une culture, et notamment en Bavière, par exemple.
Mais en France, ça se fait aussi, les gars.
Tu sais, dans les villages et dans les grands villages en Bavière, tu as toujours en plein centre du village une sorte de grande. Un grand poteau qui est très haut, qui doit faire 10 mètres de haut. Et c'est traditionnellement, voilà, c'est les villages se piquaient les poteaux les uns les autres. Tu vois, c'était un peu la guerre des clochers. Et ça rejaillit sur le football aussi.
Ok. Tiens, juste Lionel, Willy et Jérôme, si vous deviez citer vraiment un match hyper chaud, alors il y a une rivalité, pas forcément en derby d'ailleurs, que vous avez joué dans votre carrière, ce serait lequel ? Il y a un match qui vous revient comme ça ou pas ? Vraiment très tendu, hein, vraiment.
Beşiktaş, moi.
Ah ouais, avec qui?
Avec Auxerre.
Ok, grosse ambiance, ouais, vraiment tendue.
Très très chaud. Ouais. Très, très chaud. Ouais,
je pensais que t'allais me dire un Old Firm, tu vois, un match face au Celtic.
Non, j'ai jamais eu. C'est tendu, tu sens que. Mais c'est pas plus qu'un.
Là-bas, t'as eu peur?
Un match de Coupe d'Europe. Non, jamais eu peur. Beşiktaş, c'était chaud. Très très chaud, ouais. C'était beau, mais voilà, c'est tu sentais que ça pouvait péter, tu pouvais avoir les supporters à chaque seconde.
Ouais. Mais t'avais pas un petit peu une petite appréhension quand même en se disant
non.
Willy,
non, quoi non, ça m'a. Alors moi, ça m'a toujours fait l'inverse. Hein. Ça m'a surtout motivé, ces trucs-là. Ouais.
Willy.
Non, moi, j'hésite entre deux. C'est quand on allait jouer certains matchs en Israël, parce que voilà, avec toute la sécurité, avec t'avais les on va dire des flics toujours de partout. Tu pouvais pas sortir de l'hôtel, tu pouvais même pas bouger de ton étage. Tu devais tirer les rideaux dans le bus quand tu traversais certaines zones. Enfin, tu vois, c'était un peu compliqué, mais là où j'ai eu un peu de stress, mais un petit peu quand même, c'est à l'Étoile Rouge de Belgrade.
Ah oui, au Maracana.
Faire un
Ouais, au Maracanã, on était faire un match avec le Bayern, un match de Coupe d'Europe. Et entre l'hôtel et le Maracanã, on s'est fait caillasser le bus, des vitres qui ont explosé. Quand on voyait les supporters sur le bord de la route, tu voyais de la haine, vraiment. C'était vraiment de la haine.
Bah d'ailleurs, l'un des derbys les plus chauds et pas forcément les plus connus, c'est l'Étoile Rouge face aux Partisans, notamment à Belgrade.
C'est dangereux, ouais. Et si tu veux, tu as. Alors, le gros avantage, c'est qu'on a commencé le match, donc le stade était plein à craquer. Mais en fait, on a marqué 2 buts dans les 10 premières minutes et le stade s'est tu. Et après, il n'y avait plus rien, tu vois. Donc, ça a été. Je crois que c'était beaucoup. Ils essayaient d'avoir beaucoup d'intimidation avant le match, mais sinon non, j'en ai pas trop vécu, non.
Okay.
Non.
Jérôme, toi.
Mais quand tu disais en Israël, pourquoi c'était avec le Bayern?
Alors c'était avec l'équipe nationale. On y était une fois ou deux.
Ouais, c'est l'ambiance que tu trouvais pesante, quoi, c'est ça?
Comme je te dis, c'est t'es à l'hôtel et t'as les gens du gouvernement, les flics du gouvernement, enfin les, je sais pas comment on les appelle, c'est là, t'as le Mossad pour l'étranger, puis t'as pour les affaires internes, et venez, ils te disaient voilà, alors les joueurs, vous êtes à l'étage 7, il y a les chambres, les salles de kiné, on vous a fait une salle où vous pourrez manger, vous ne sortez jamais de cet étage. Voilà.
En fait, je pense qu'il faut expliquer, c'était pas simplement à cause du football, c'était l'ambiance générale contre le terrorisme.
Ah oui, bien sûr. Oui,
et qui voulait surtout pas être responsable, tu vois, c'est-à-dire que les autorités pouvaient pas imaginer qu'un.
Ah non, et puis surtout, on t'expliquait, alors il faut absolument décoller avant telle heure ou entre telle heure et telle heure, parce que là, le vol, il y aura pas de souci, parce que si on décolle après une certaine heure, l'avion peut être pris pour, pas un avion, tu vois, donc. Ouais. C'est un pays magnifique, hein. L'Israël, c'est un pays magnifique. Ah mais à l'époque, quand t'as reparté, t'es presque soulagé d'en partir. Mais c'est dommage parce que voilà, c'était vraiment, vraiment.
Pas de visite.
Ah non, aucune à l'époque.
Moi, Jérôme,
du coup, toi, le match le plus chaud que t'es joué?
Ouais, il y en a quelques-uns, mais
à Auxerre, dis-le.
Ouais, non, mais c'est plus en Turquie. Quand j'ai été jouer en Turquie, on avait fait un match à Diyarbakir. C'est vraiment à l'est de la Turquie, frontière syrienne, irakienne. Et là, Fred posait la question tout à l'heure à Lionel s'il avait eu peur dans un stade.
Ouais,
c'est la seule fois où j'ai eu peur. C'est la seule fois où j'ai eu peur. Vraiment, parce que là, il n'y avait pas de sécurité, pas assez. Les supporters de Diyarbakir qui étaient révoltés contre le gouvernement turc nous balançaient des parpaings, vraiment. Hein, c'était même pas des cailloux, c'était des parpaings. Et le match s'est arrêté à une demi-heure de la fin. On est sortis sous plusieurs escortes, mais ils ont caillassé, cassé le bus. Il n'y avait plus de vitres sur les bus. Vraiment, c'était incroyable. C'était des scènes de guerre, en fait.
Mais c'était une vraie peur physique. T'as eu peur pour ton
intégrité physique. Ah oui, peur physique, parce que bon, sur le terrain, en général, sur le terrain, les footeux, on craint rien, c'est vrai.
Non, Fred. Non, mais là,
en même temps, des parpaings. Mais tout le monde est dépassé, en fait, dans ces cas-là, et même la sécurité qui était trop réduite était dépassée. Et pour vous expliquer vraiment ces événements-là, c'est que Diyarbakir a été pénalisé, interdiction de retourner faire un match là-bas pour n'importe quelle équipe. Ils ont fini les matchs à Istanbul du championnat, et puis après ils ont été relégués en troisième division turque.
À cause de ça?
Ouais, à cause de ça, ils étaient révoltés, en fait, et tout le club, les supporters, donc je te dis, ils ont fini à Istanbul, à jouer tous les matchs à Istanbul à huis clos jusqu'à la fin de saison, et puis en fin de saison, même s'ils étaient maintenus, ils les ont rétrogradés en troisième division.
Bon, les gars, si vous deviez choisir votre derby préféré qui a été présenté ce soir, ce serait lequel, du coup?
Sud-Fred.
Ah, tu vas m'en douter.
Qui aime bien Châtillon.
Parce que c'est quand même la plus belle ville de tous les derbys dont vous avez parlé. La plus belle ville, c'est quand même Séville.
J'ai bien aimé.
C'est vrai que Séville, c'est sympa, ouais. Comment?
Cologne, c'est pas mal non plus.
Ah oui.
C'est une ville romaine, c'est assez extraordinaire.
T'es déjà allé à Séville, Polo, ou pas?
Non.
Bah voilà, je pense que c'est.
J'ai été consul là-bas, par contre, paraît-il.
Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Putain, ça sympa ça, Nino.
C'est ça, il y a quelque chose dans toi que j'aime bien. Et ben voilà. Voilà, je me disais
le
aussi.
Le mec qui a été conçu à Séville, il disait même
mais
ça.
Tu sais, c'était incroyable. Du temps des Habsbourg hein, quand même. Hein.
Exactement.
Bah oui, tu sais, l'Espagne a été arabe et autrichienne. Hein, donc, c'est l'histoire d'Espagne, c'est ça. Hein, c'est la colonisation voilà. Arabe, la colonisation autrichienne.
Mes chers drôles de dames, merci beaucoup. Merci et d'avoir été avec nous, les gars. Bonne soirée, bonne merci nuit. Prenez soin de vous, surtout les mecs.
Salut à tous.
Prenez soin de vous, les gars.
Merci aussi. Tout le monde, stay safe.
Ouais, vous aussi. Merci beaucoup Lionel, merci Willy, merci Jérôme. On remercie Daniel Torres qui a réalisé cette émission. On remercie Arthur Robert qui nous a aidé à la préparer. Puis on vous rappelle, pour donner à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, vous envoyez don des ON par SMS au 92 11. Pour donner 5 euros, rendez-vous sur rmc.fr, les réseaux sociaux d'RMC et sur le hashtag Solidarité Hôpitaux. Prenez soin de vous surtout. Restez chez vous, faites attention à vous et pensez aussi à ceux qui sont seuls. Bonne nuit à tous, merci, à demain.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.